Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, cette émission, pleine d'énergie, vous encourage toujours, si vous êtes victime ou témoin d'abus de pouvoir ou d'autorité, de participer à cette émission en livrant publiquement vos témoignages. Sachez que chaque témoignage et chaque dénonciation devient une importance capitale pour les victimes, les proches des victimes aussi, une forme préalable de prévention, puisque c'est le seul moyen pour prouver que l'abus de l'autorité est un phénomène, malheureusement en extension majeure dans notre société. Et justement, parce que ça se passe dans notre société, que ça devient inquiétant et dérangeant. Donc l'abus de pouvoir est un phénomène aussi dégradant que celui-ci ne devra pas exister dans une société comme la nôtre. Voilà pourquoi des milliers de personnes descendent chaque année dans les rues de Montréal et partout dans le monde pour dénoncer et sensibiliser les gouvernements, en particulier d'agir pour stopper l'abus de pouvoir exercé par ces fonctionnaires. Montréal, ne fait pas l'exception. Hier, justement, il y a 1000 ou je ne sais pas, 2000 personnes peut-être, ou plus même, une chose qui est certaine, la manifestation finalement a eu lieu, malgré la campagne de terreur pour décourager la participation à cette 16e journée internationale contre la brutalité policière. Donc, alors il faut comprendre aussi que cette journée n'a pas surgi d'elle-même, mais il y a évidemment un moteur déclencheur qui a fait naître cette manifestation populaire d'ailleurs, même si la plupart des citoyens ne participent pas directement. Ils restent solidaires. Donc, ils préfèrent de ne pas participer physiquement de crainte de conséquences. Les arrestations massives, agressives et surtout aveugles, dont la plupart du temps de l'appareil policière, découragent la participation des citoyens. Sans vous parler, bien sûr, des campagnes de terreur, quand les responsables de la sécurité publique, par exemple, demandent ouvertement au public de se tenir loin de cette manifestation, il y a clairement, derrière ce message de terreur, un avertissement et le dos d'un stratagème qui fait froid au dos. Alors maintenant, il faut souligner aussi que, et d'ailleurs vous le savez très bien, que ce n'est pas tous les manifestants qui participent dans cette marche de dénonciation viennent avec l'idée de poser justement des actes de violence. Il y a surtout des victimes qui n'arrivent pas à vivre avec le goût de l'injustice. Il y a des citoyens avertis et conscients de la problématique. Il y a des militants pour les droits. Bref, il y a le sentiment d'un devoir. Alors les gens se voient plutôt un devoir de citoyen de sortir de chez eux et de dire non à l'abus et à la brutalité policière. Je défie aussi toute personne qui vient nous dire que la brutalité policière n'existe pas, que l'abus de pouvoir n'est pas un phénomène en extension dans notre société, que les conséquences de l'impunité policière ou le manque d'encadrement de cette force excessive, incontrôlée, devient de plus en plus inquiétant. Il est devenu aussi évident que l'injustice dans les nouvelles sociétés modernes n'a pas de voie réelle. On fait tout pour effacer son existence. Qu'est-ce que vous voulez, mes chers citoyens? C'est la modernité et l'évolution reculant de notre démocratie et de nos sociétés modernes. Si vous dénoncez la situation, vous allez devenir automatiquement un anarchiste. Vous avez aussi tous constaté que quelques minutes après le départ de la manifestation d'hier, elle était rapidement déclarée manifestation illégale. Un autre abus de pouvoir pour mettre rapidement fin à cette manifestation et de procéder à des arrestations massives. Et c'est justement de là que les problèmes surgissent, puisque les manifestants perdent d'une minute à l'autre ce droit légitime de manifester, méthode de provocation hautement planifiée d'avance de la part de nos policiers. Ce que nous appelons le sabotage de la manifestation. Comment discréditer un droit fondamental et enlever aux citoyens la chance de s'exprimer et participer massivement dans le débat politique? Nous savons très bien qu'il y a également une volonté politique de répression qui cherche par tous les moyens et à tout prix de faire taire le citoyen. Mais ce qui nous révolte sincèrement dans tout ça, c'est l'absence du rôle des médias, voire leur négligence aggravante envers le citoyen. Je ne veux pas non plus citer tous les noms et les stations de radio ou de télévision, la presse écrite encore pire, mais je vais quand même vous rapporter l'interrogation d'un animateur de télé soi-disant populaire qui avait invité hier sur son plateau M. Richard Dupuis, expert en enquête policière, concernant justement cette manifestation du 15 mars, journée contre la brutalité policière. Et l'animateur en question, c'était Jean-Luc Mongrain. Tout le monde attendait le traité, au moins qui traite le fond de cette manifestation, discuter, si vous voulez, de la brutalité, l'impunité policière, pourquoi pas le profilage racial systématique de la part des policiers, le profilage social, et j'en passe. Mais à notre grand étonnement, l'animateur demandait à l'expert en quête policière, et avec une grande interrogation et étonnement, « Voulez-vous me dire qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là » Alors je répète bien, ça c'est l'animateur Jean-Luc Mongrain qui demande à l'expert « Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là » Il parle des manifestants. Jean-Luc Mongrain ne sait pas pourquoi des milliers de citoyens manifestent et marchent dans les rues de Montréal et partout d'ailleurs dans le monde cette journée-là. Encore pire, il déclare que tous ceux qui participent à cette manifestation comme étant des anarchistes. Des anarchistes, voilà. Voilà, et attention, sachez que chaque fois, chère auditrice, cher auditeur, que vous disiez au gouvernement non, vous êtes un anarchiste. Ce n'est plus rentable pour les médias d'être du côté des citoyens. Ça ne lui rapporte rien. Alors il défend l'intérêt de la politique au pouvoir. Alors il faut dire oui et continuer à dire oui jusqu'à la fin de votre vie, si vous avez une, parce que respirer ne veut surtout pas dire que vous êtes vivant. Au micro avec vous ce matin, Adje Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, entre autres, la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Ce matin, ils sont présents avec moi sur le plateau, mes collègues Roland Cazès, qui n'est pas encore arrivé, et Henri Barnabé, il est là. Donc tous les deux ont participé à cette manifestation d'hier, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont remarqué en particulier de cette journée. Et j'ai aussi devant moi dans le studio Madame Aladio Graciela, une psychologue. Nous l'avons puisque le cas de l'un de ces patients qui souffrent de maladies mentales était objet de brutalité des agents de l'STM et des agents de l'SPVM. Elle va nous parler d'une façon générale de la vulnérabilité de ces malades une fois être entre les mains de la force policière. Restez à l'écoute, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Après notre thème musical, nous allons revenir à notre émission.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur. de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baffe obscène est à la lune.
Donc voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les radios Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. La première question que j'aimerais bien poser à Monsieur Barnabé, je sais que vous, Henri Barnabé, vous avez participé à la manifestation de hier. Je veux signaler aussi que Roland Cazès, mon collègue, il n'est pas encore arrivé, donc je vais commencer directement par vous, Monsieur Barnabé. Vous avez participé à la manifestation d'hier contre la brutalité policière. Et je sais aussi que vous êtes âgé de
75 ans.
Vous avez 75 ans. Ouais, vous avez 75 ans. Et ce que j'ai bien compris aussi, que vous avez participé quasiment à toutes les manifestations depuis le commencement, depuis le début. Et vous insistez... Vous avez participé hier aussi, hein, à l'âge de 75 ans, vous avez participé. Est-ce que je peux savoir, premièrement, pourquoi vous avez participé à cette émission, à cette manifestation-là?
C'est quand on commence à dénoncer la brutalité policière, c'est là qu'on pourrait dire que les jeunes commencent à se faire bousculer et puis ils ne veulent pas que la police soit, qu'on rentre pour leur dire que c'est des gens qui sont brutales. C'est bien valeur de le dire, mais c'est ça qu'est la société aujourd'hui.
Mais vous, monsieur Barnabé, depuis, ce n'est pas la première fois, c'est depuis des années peut-être, vous êtes dans les manifestations. Pour vous, est-ce que cette journée, la 15 mars, une journée internationale contre la brutalité policière, est-ce qu'elle devra exister?
Toujours, toujours.
Pour vous, elle devrait exister.
Oui, puis on a de la relève des jeunes aussi. Oui,
mais...
que j'y crois, puis même, il donnait des affiches pour dire qu'il ne faudra pas avoir de brutalité, de respecter.
Pour vous, une manifestation devra être pacifique.
Pacifique, justement.
Oui, pacifique. Mais malheureusement, on sait que ça, c'est pas le cas. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des éléments qui troublent un petit peu cette manifestation et que, comme je l'avais déjà souligné, elle est déclarée déjà quelques minutes après une manifestation illégale.
Bien, même avant de partir, elle était déclarée illégale. Pourquoi? Même avant de partir. Oui. Parce que, justement, il n'y avait pas redonné le parcours. Puis moi, quand je faisais des manifestations, quand
les années... Mais ils ne sont pas obligés, les organisateurs, ils ne sont pas obligés de donner le parcours.
Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas te donner le permis quand tu ne donnes pas le parcours.
Ouais.
Puis moi, il ne faut pas jouer le jeu des autres.
Vous êtes contre, vous, c'est ça?
Moi, je suis pour donner le parcours, mais c'est nous autres qui décident le parcours, d'où qu'on va aller manifester, d'où que c'est, on pourrait dire, d'où que tu peux les atteindre.
Oui. Je reviens à Madame... Oui, Madame Aladio, qui est psychologue. Avant de rentrer dans l'objet de votre invitation aujourd'hui, j'aimerais, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui d'ailleurs.
Oui,
vous exercez comme psychologue depuis une vingtaine d'années ici au Québec et tout. Vous
oui.
accompagnez les gens qui sont sensiblement, visiblement atteints avec des troubles mentaux, hein,
oui.
troubles mentaux et
oui.
tout. Avant de commencer par parler de votre de sujet d'aujourd'hui, de votre présence aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez, si vous me permettez de poser cette question-là, est-ce que vous pensez que la journée 15 mars, la journée contre la brutalité policière, devra exister?
Bon, disons, dans le monde, devrait exister.
Elle devra exister.
Comme un
droit elle devra exister, oui.
citoyenne, mais en réclamant, oui, la présence policière dans toutes les manifestations
oui.
pour protéger les gens. Disons que c'est la façon de la présence policière.
Mais vous comprenez très bien, madame, si vous me permettez, vous comprenez bien que cette journée-là, elle est justement pour dénoncer la brutalité policière.
Exactement.
Attention, hein, parce que c'est un fait, c'est un constat, c'est une réalité. La brutalité policière existe, malheureusement,
oui.
dans la société. Que, c'est les policiers ne sont pas des extraterrestres, c'est pas des
dessins.
C'est
des humains.
C'est des humains et qui peuvent, malheureusement, dans la plupart du temps, ils peuvent aussi se déborder, faire des gaffes, ok?
Mais il peut déborder parce que toujours dans la relation humaine, il a cette situation de danger
oui.
et la peur fait agir d'une part et de l'autre.
Oui.
Une pour se défendre, l'autre pour agresser. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Oui.
Et quand il a des manifestations, évidemment, et ils peuvent déborder.
Oui.
Alors, ce qu'on souhaite, c'est que l'intervention policière soit modifiée et soit respectueuse et soit présente, oui,
mais
de notre façon.
Exactement.
Ça, c'est mon souhait comme psychologue, comme citoyen.
Oui, mais Madame Aladio, justement, tous ces gens-là, tous ces manifestants qui sont sortis, justement, dans les rues, justement, ils veulent dénoncer cette brutalité et ils disent la même chose. Il faut que le policier devienne respectueux envers les citoyens. Et c'est,
oui.
ça, c'est ça le message qu'ils veulent véhiculer.
Oui.
Avez-vous quelque chose pour...
Disons que le message est très bon. C'est, malheureusement,
oui.
a été débordé et je suis certaine que c'est des éléments qui ne sont pas souhaitables qu'ils soient dans la manifestation, qu'ils ont provoqué tout ça.
Oui.
Mais qu'évidemment, c'est un droit du citoyen de manifester. Et
oui.
si la manifestation a eu lieu, c'est parce que probablement elle a été autorisée.
Oui, autorisé, pas autorisé, c'est pas important. Le citoyen a le droit de manifester. Hein. On ne peut pas empêcher
oui.
un citoyen. Il ne faut pas qu'il
oui.
attende une autorisation, si je ne me trompe pas. Monsieur
mais...
Barnabé, je veux juste savoir maintenant, quand vous avez participé, comment ça a été déroulé cette manifestation? Vous étiez là.
Mais d'abord, première des choses, ils ont provoqué tout de suite un partant en disant qu'on était illégal de disperser.
Oui. Dès le départ, ils ont...
Dès le départ, on pourrait dire...
Pourtant, elle a été déclarée, si me semble, au moins 45 minutes après, normalement. Hein?
À peu près 20 minutes avant là, notre départ.
Oui. Avant ou après le départ?
Avant le départ.
Mais moi, ce que j'ai bien... Si j'ai
ah non, non,
suivi,
mais moi, j'étais là devant, puis même... Parce que moi, je peux te dire aujourd'hui qu'on devrait, nous autres, avoir notre service d'ordre. Mais ils nous empêchent d'avoir notre service d'ordre. Si, par rapport à pourquoi, eux autres, on n'a pas besoin de leur service d'ordre. Ils peuvent être éloignés parce que c'est des provocateurs. Moi, j'ai vu...
Vous parlez
des
policiers.
Des policiers, c'est des provocateurs. Parce que j'ai vu, il y avait 5-6 jeunes ensemble, et puis ils ont été les voir... À cause qu'ils étaient dans le parc, ils ont été les voir, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Dégagez. Mais nous autres, on dit, on vient manifester avec les autres. Et puis aussi, j'ai vu, il n'y avait pas d'étudiants.
Oui.
Mais, excusez-moi, par exemple, il y avait les étudiants de technique, l'école technique de police qui était là.
Oui.
Il y était à peu près une vingtaine d'étudiants.
Oui.
Il y en avait qui, puis moi, je les ai, courtoyer en leur parlant, puis là j'ai vu qu'il y avait un parmi eux qui était, on pourrait dire, qu'il ressemblait, on voyait qu'il y avait un peu de la tendance de manière policier.
Oui.
Parce que j'ai demandé pourquoi il était là, nous autres, et dit, nous autres, on ne veut pas se mélanger.
Mais M. Barnabé, vous avez 75 ans. Est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, vous n'avez pas eu peur qu'il vous arrive quoi que ce soit dans la manifestation? Et, des bousculades, vous recevez une grenade sonore, ou vous pouvez avoir... c'est risqué, hein, des fois.
Oui, mais
à votre âge, vous avez insisté quand même d'aller, de participer.
Oui.
Il n'y a rien qui vous a empêché.
Mais moi, j'essaie pas m'éloigner. Je reste dans un peloton, oui. Mais je vérifie qu'est-ce que la police fait. Mais je veux, je suis pas un kick Kodak.
Oui.
Parce que quand je vois des policiers, comme hier, là, il y avait à peu près au moins une dizaine de policiers avec des aussi accompagnés. Tiens, celui-là, faut que tu le filmes, c'est dangereux. Tiens, celui-là, faut que tu le filmes.
C'est des centaines de policiers.
Droit, non, non, une dizaine, je veux dire, juste des policiers avec des Kodak à l'intérieur
qui
posaient.
Oui, oui.
Et puis, elle disait, celle-là, faut que tu le poses, j'ai pas supposé d'être ici.
Oui, oui.
Un autre. Puis tout ça, fait qu'à fin de compte, moi, j'ai trouvé ça. Nous autres, la minute, une caméra, tu as fait la même, il t'accroche, puis, ou donc.
Oui.
Et puis, tu saisis tes affaires, puis en même temps, ben, si tu le demandes, ben là, tu fais ton permis. Parce que j'ai un de mes amis, justement, qui faisait des photographies, puis ils ont pris son permis, puis là, le monsieur...
Son permis ou son caméra?
Quand il est venu réclamer son chose,
oui.
Et là, son permis, parce qu'il avait donné, il a fallu qu'il donne son permis.
Oui.
Puis quand il était cherché son permis,
Le permis de conduire.
Permis de conduire. Et quand il est venu pour aller chercher son permis de conduire, ils ont dit non, monsieur.
Oui. Non. Monsieur Bonhomme, je veux juste revenir un petit peu
sur
ça.
Des paiements.
Oui, mais c'est pas grave. Je veux savoir, non. Si ça a été à refaire, vous avez 75 ans aujourd'hui, est-ce que vous le sentiez un devoir d'aller à la rue, participer à cette manifestation-là? Est-ce que pour vous, c'est un devoir? C'est quoi? Pourquoi vous allez chaque année, vous êtes là, même à votre âge, 75 ans, c'est pas tout le monde qui le font. Pourquoi vous appuyez les jeunes ou vous pensez que c'est un devoir, ou c'est une nécessité, ou c'est nécessaire, ou obligatoire? Comment pouvez-vous me dire?
Moi, aujourd'hui, comme hier, j'étais fier d'être là. Parce que j'ai vu des jeunes qui voulaient justement manifester pacifiquement. Toutes sortes de classes de société qui étaient là. C'est pas juste des jeunes, des personnes plus âgées, ces choses-là. Et puis, j'ai confiance à la relève. Et puis moi, je leur dis, lâchez pas les jeunes, vous faites ça bien.
Ouais.
Et puis, on a eu des grands hommes qui ont parti, comme Michel Chartrain, comme madame qui vient justement de décéder cette semaine, là, madame, qui ne me vient pas en mémoire. Là. En tout cas, c'est elles ont nous représentaient les travailleurs.
Oui. Merci. Je reprends avec madame. Vous êtes ici. Excusez-moi, madame.
Aladio.
Vous êtes ici, comme vous l'avez dit bien, vous êtes psychologue. Vous avez suivi en particulier un réfugié, si je me trompe.
C'est un de mes clients.
Qui est mexicain, si vous me permettez, je ne cite pas le nom. Et qui est là depuis 4 ans. Et puis. Il a eu, suite à une intervention excessive, si vous permettez, qu'on vous l'avez bien défini comme quoi mal évalué. Et ce cas-là, il vous a touché en particulier, et vous êtes venu aujourd'hui pour témoigner de ce cas-là. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances cet événement a été produit?
Bon, d'abord, il faut se mettre un peu en contexte. Et mon client, c'est une personne qui est très vulnérable présentement.
Oui, oui.
Et il souffre de maladies mentales.
Oui.
Et dû à son séquestration. Il a été séquestré, nous ne savons pas combien de temps.
Ici, à Montréal?
Dans son pays d'origine.
Dans son pays d'origine.
Dans des circonstances très pénibles.
Ça veut dire qu'il vient déjà avec un fardeau sur le dos.
Il venait avec un traumatisme post-traumatique parce qu'il a été séquestré, comme je viens de dire.
Oui.
Et brutalisé, évidemment, pour ces
et ça, c'est un cas parmi des milliers de cas.
Exactement. Il y en a beaucoup qui circulent à Montréal, plus de ce qu'on imagine.
Ouais.
Mais ces gens-là, déjà, ils sont très fragiles, très vulnérables.
Tout à fait. On a vu le cas de plusieurs.
Alors, on traite beaucoup les post-traumatiques.
Ouais.
Et ce qui est arrivé, que à Montréal, malheureusement, dans les transports publics, il a été agressé.
Dans
les transports publics, dans un autobus, malheureusement très très mal agressé, ils l'ont cassé les 4 molaires, il a perdu à coups de pied. Évidemment.
Mais qui était l'agresseur?
Et un agresseur, une personne
ici à Montréal,
dans l'autobus à Montréal. Ça c'est la première fois. Alors ça, Il a passé 2-3 jours à l'hôpital. Oui. Et évidemment, il avait des contusions partout. Oui. Il vomissait.
Est-ce qu'il y avait une raison de la ségrégation-là?
Je ne sais pas exactement.
On sait pas. Oui.
Mais évidemment, c'est une personne qui parle très peu de français.
Juste il a un handicap de langue, je sais.
C'est-à-dire que les handicaps des langues est très important.
Oui.
Et c'est,
mais vous avez réussi à communiquer avec lui.
Oui,
vous parlez
très bien.
Ouais,
oui.
très bien.
Je parle en espagnol.
Ah, oui,
mais c'est qu'il y a que ça, c'est les précédents qui commencent
oui.
dans les transports publics. Et après, il a été agressé une autre fois dans son appartement. Ils sont rentrés, ils l'ont volé. C'est-à-dire que c'est
parce
la malchance combinée.
C'est pas juste malchance, mais parce qu'il est aussi absent aussi. Le pauvre, il n'est pas dans le réel. Hein.
Il souffre énormément.
Énormément.
Et mais quand je dis c'est des situations de départ, justement, oui. et c'est la mauvaise évaluation parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au métro, arrivé à la station Berry.
Mais à l'intérieur du métro.
À l'intérieur du métro.
Ben, ça se part dans une station de métro.
Et probablement, il n'a pas voulu descendre du métro. Je n'ai pas encore le mandat pour avoir le rapport. Mais cette personne a été amenée des forces en haut de la station.
C'est les agents de la...
Des agents. C'est-à-dire que c'est une forme de police, c'est les agents de sécurité.
De sécurité qui est au
métro.
Qui
probablement,
oui.
ils n'ont pas la formation pour détecter.
Oui.
Mais c'est une personne qu'il s'habille d'une façon un peu drôle, qu'évidemment, n'importe quel citoyen pourrait dire que cette personne n'est pas dans son état normal.
Vous parlez de votre
victime,
de votre fille.
Alors, ils l'ont amené. Probablement, il a voulu continuer, il a voulu voyager, je ne sais pas. Mais la situation, c'est que, il a été malmené, brutalisé par les agents. Et ils l'ont vidé son sac.
Ouais.
Et puis, dans son sac, ils ont trouvé juste une petite canif. Et ils l'ont accusé d'avoir un couteau sur lui et une amende de $375.
Oui.
C'est-à-dire situation mal évaluée parce que quand il commence à parler avec cette personne, et voilà qu'on peut se rendre compte qu'il n'est pas une personne. Il est sous médication. Et je peux vous dire que ce n'est pas le seul cas parce que j'ai déjà travaillé à Hippolyte Lafontaine et la ligne verte directement à Hippolyte Lafontaine,
oui.
c'est une ligne où il a beaucoup de situation difficile.
Oui.
Alors, on peut identifier qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui circulent, qu'il faut être traité d'une façon humaine, évalué, et puis préparer peut-être les agents de sécurité.
On va peut-être juste faire écouter une annonce publicitaire et on va revenir avec notre invité d'aujourd'hui pour continuer justement ce sujet, parler de ce sujet-là, de cette intervention qui était policière et de la STM, des agents de la STM.
Vancouver, au sommet de l'Afrique et devant les barrières, au sommet de Québec, la puanteur domine la scène, n'est-ce pas à cause des gaz lacrymogènes? Fouilleux, barbu, ignorant le savon, il rentre sous leur pancarte dans les manifestations. Toujours chaud, 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 solidarité, jamais ça, 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 salubrité. Avant, je gonflais les rangs de ces individus.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Reggae.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelles Vagues. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelles Vagues, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada,
bossa nova, fado, hip hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
J'aime entendre l'écho d'écran qui craque sur la matraque. Moi, j'aime la police, la police, la police, la police. Moi, j'aime la police.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, cher auditeur. Vous êtes toujours en direct avec l'émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM et je suis devant moi, j'ai Madame Aladio Graciella. Elle est psychologue, elle exerce depuis 20 ans ici à Montréal et elle nous parle d'un cas particulier. Madame Aladio, vous avez cité comme quoi les agents de la surveillance du métro, je pense, la sécurité du métro, ils ont arrêté votre client, si vous me permettez. C'est un client qui souffrait de troubles mentaux. Et en l'arrêtant, ils ont fouillé. Parce que d'abord, d'abord, il comprenait pas pourquoi il a pas voulu sortir de wagon du métro, j'imagine.
Je sais pas les circonstances. Ouais,
mais ils l'ont quand même traîné.
Ça n'empêche pas les circonstances, soit qu'il peut-être il n'a pas voulu sortir.
Mais pour vous, Madame Aladio, je veux savoir.
Mais c'est une autre chose.
Ouais, mais je veux savoir. Pour vous, est-ce que visiblement ce gars-là, on peut rapidement identifier le gars comme quoi il souffre d'une maladie? Est-ce que c'est identifiable?
Oui, c'est identifiable. Fiable parce qu'il s'habille d'une façon étrange, c'est-à-dire il met une tuque et sur la tuque il met une autre bizarre comme pour jouer au tennis et un foulard pour se cacher.
Ah, quasiment une cagoule.
Non, ce n'est pas une cagoule, parce qu'il s'agirait une cagoule, tout le monde pourrait reconnaître une cagoule. Ouais. C'est avoir deux chapeaux sur lui, ouais. Et ça c'est pour soutenir un foulard qui cache son nez. Je l'explique à lui clairement qui se cache.
Pourquoi il se cache?
Et il se cache, sont les bandits. Alors je lui explique que lui, il provoque une réaction chez les gens, des peurs.
Lui, il comprenait pas ça.
Et il accepte pas. Il accepte pas. Ils disent qu'il a le droit de se cacher parce que autrement les gens l'agressent et que la police l'a identifié et qu'à chaque fois il arrive quelque chose. Il est allé à une église et puis il parlait un espagnol. Il pliait et les gens ils l'ont dit de 7 heures. Ils ont appelé la police. Ils l'ont sorti
dans une église aussi.
Dans une église. Alors si vous imaginez, il est terrifié par les policiers.
Ouais. Mais pour lui, si j'ai bien compris,
il est vulnérable. Ouais, mais vous imaginez que au moment qu'il arrive au Canada en pensant qu'il va avoir la paix, il dit, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis arrivé à cette ville, continuellement, je me fais agresser.
Mais pour lui, en arrivant ici à Montréal, arrivant au Québec, justement, c'est la sécurité.
Et c'est un homme qui est très heureux d'arriver, mais quand il commence à se faire agresser, ils disent, maintenant, les policiers m'identifient partout. Oui. Alors, je dis, oui, ils vous identifient, parce que si vous êtes dans une foule avec cet habit comme ça, ils vont vous identifier à 100 mètre rapidement, il dit voilà, c'est lui du foulard. Oui. Alors vous voyez que dans son comportement, il n'est pas tout à fait correct.
Oui, mais Madame Aladio, ce que je veux comprendre,
c'est-à-dire
vous pouvez me corriger.
Ils peuvent identifier les situations. Voilà, il n'est pas normal depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire que je demande pas que la police intervienne pas. Oui. Quand il faut intervenir, mais qu'il soit sensible à cette situation de vulnérabilité. Mais
avant d'arriver justement à ça. Vous êtes plus spécialisé, vous pouvez me corriger si je me trompe. Pour vous, la manière de s'habiller comme ça, c'est une sorte de protection. Il se protège quelque part.
Il dit qu'il se protège, mais au contraire...
Mais qui peut le comprendre, à part vous, j'imagine.
Oui, non. Et tout le monde qui les voit, et ce qui arrive, que les jeunes, vous savez, tous les jeunes qui voyagent dans le métro, ils commencent à se moquer de lui, à rire, etc.
C'est ça,
ils disent, comment ces gens-là, ils ne sont pas respectueux. Pourquoi ils ne me respectent pas? Pour lui, le respect, c'est une valeur.
Oui, mais c'est qui plus grave? Ce qui me dérange ici, c'est que, imaginez-vous avec un citoyen qui le voit comme ça, qui se moque de lui et tout, quelle est l'attitude d'un policier envers ce type-là?
C'est la répression.
Ouais.
Et moi, ce que je dis, c'est le contraire.
Ouais.
Les policiers devaient être formés pour ce genre de situation. Parce que ce n'est pas une situation ordinaire.
Mais vous l'avez bien dit, madame, comme quoi...
Il y a 2 millions de personnes qui voyagent dans le métro.
Mais vous disiez tantôt qu'il est identifiable. Visiblement, on peut savoir que c'est un gars qui s'ouvre le trou de manteau. Hein, que c'est
vous n'avez pas besoin d'un diplôme.
Vous n'avez pas un diplôme pour ça. Alors, pourquoi, comment vous expliquez qu'un policier vient devant des gars comme ça, à part, on a déjà tiré sur des personnes comme ça, ils sont plusieurs, ils sont nombreux, mais on peut tabasser un type comme ça qui, déjà, le pauvre, il est déjà tabassé de toute sa vie.
Exactement.
Hein.
Et c'est que cette attitude de
l'autorité,
réveille tous ces traumatismes intérieurs.
Voilà,
parce qu'il se souvient de comment il a été séquestré et puis avec beaucoup d'une situation épouvantable.
Ouais.
Il a jeté des rats, des insectes pour qu'il...
Dans son pays d'origine.
Dans ses captivités. Alors
il y a une souffrance.
Il souffre énormément.
Énormément.
Et chaque fois qu'il se fait tabasser, après, c'est tout ce qui revient dans sa tête, c'est l'agression qu'il avait subie. Ça, c'est les syndromes post-traumatiques.
Tout à fait. Mais toute cette souffrance-là, imaginez-vous le trajet qu'il a fait pour arriver ici, l'espoir qu'il menait avec lui, le souhait, tout ça tombe dans l'eau, ce serait de le dire, c'est ça?
Travail que nous, maintenant, on est en train de faire avec le psychiatre, travailler pour le rétablir la confiance. C'était énorme.
Mais je comprends bien, madame, parce que vous m'avez dit avant que je prends le micro, comme quoi, c'est vous qui lui donnez ces médicaments, c'est vous qui l'appelez conséquemment.
Mais oui, mais il m'appelle aussi, c'est arrivé déjà à m'appeler, c'est-à-dire...
Non, ça veut dire, je veux dire, vous l'encadrez, mais...
Il a un lien de confiance.
24 sur 24, quasiment, si j'ai bien compris.
Il a mon numéro de cellulaire et il a le droit de me téléphoner.
Ouais, mais ce n'est pas un proche à vous, c'est un...
Non.
Pensez-vous que le suivi médical ici, comme les hôpitaux, les CLSC, est-ce qu'ils font ce suivi-là? Est-ce qu'il est suivi
par
ces gens?
Non, moi je travaille présentement avec la collaboration d'un psychiatre très sensible à la situation, qui a accepté de les suivre. Mais pendant 4 ans, il n'avait jamais vu un médecin.
Pendant 4 ans, depuis qu'il vit ici au Québec, il n'a jamais rencontré un médecin.
Pour son problème de santé, une fois, on s'est laissé...
En 4 ans.
Oui. Mais c'est son attitude aussi. C'est-à-dire que c'est lui-même aussi qui veut pas être dans un endroit où il a trop de monde,
mais
parce que
normal,
ça le fait peur.
Il est
pris dans tous ses troubles mentaux.
Oui.
Mais c'est-à-dire que, au fil des années, ça s'est détérioré.
Oui. Mais vous, madame...
Et les agressions. C'était
toujours des agressions. Mais ce que je savais, madame Aladio, ce que j'ai bien compris, c'est justement par l'intermise, c'est-à-dire de votre acte, de votre travail, de votre prise de conscience que vous êtes allé remettre ce contact, cette confiance. C'est vous-même, que c'est un travail que vous avez fait vous-même.
Mais maintenant,
Et ce monsieur-là, maintenant, aujourd'hui...
Comme tous les intervenants, quand il a...
Je suis désolé,
c'est
pas tout le monde qui font le travail comme vous... Parce que vous avez réussi quand même à quelque chose de fantastique, c'est de réussir d'avoir qu'il a une confiance en vous, puis là, il vous parle, et là, vous pouvez suivre sa situation, et peut-être d'une dégradation, là, il y aura une évolution qui peut être pour le bien.
Mais oui, parce que maintenant, il est sous médication, parce qu'il n'avait pas de médicaments du tout.
Pendant 4 ans. Ce qui a fait dégrader
énormément
sa situation.
C'est-à-dire que jamais il a été, j'ai la lettre du psychiatre où il dit que jamais a été traité jusqu'à présent. C'est-à-dire que si cette personne aurait eu un médecin qui l'aurait évalué convenablement, il aurait pu être mieux. Mais c'est-à-dire que c'est une accumulation de situations.
Maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a eu... selon vous, vous le suivez, est-ce qu'il a eu des interventions avec des autorités, avec l'autorité policière? Est-ce qu'il y avait des cas où des autorités policières sont intervenues dans le bien ou dans le mal?
De cet monsieur, hein, dans
oui,
ce
cas-là. Oui, toujours le même cas, on n'a pas encore.
Oui, par exemple, celui de l'église, c'était oui. deux policiers assez jeunes, oui. et ils ont compris. Parce que lui...
Ils l'ont vu, ils l'ont compris.
Oui, 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 oui. Ils l'ont sorti, ils l'ont parlé gentiment. Ils ont compris qu'il n'était pas bien.
Ils ont pris la... Ils feront vraiment le temps qu'il faut.
Lui, ouais. Lui, il a des prétentions. Même s'il parle en espagnol, l'autre, il va les comprendre. J'ai dit, écoutez, on n'est pas obligé de parler espagnol au Québec. Alors, c'est vous que vous devez parler les français.
Vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il y a une possibilité, quand un policier a cette volonté-là, qui veut vraiment éviter cette agressivité, cette brutalité, il peut communiquer même avec quelqu'un qui souffre de troubles mentaux. Est-ce que c'est exact?
Oui, évidemment.
Mais malheureusement,
Mais je peux vous dire quelque chose. Oui. J'ai eu une autre expérience avec une autre personne. C'était le cas d'un bipolaire. Et le monsieur avait ma carte. Ils m'ont téléphoné immédiatement. Ils les avaient pris la veille vers 7h du soir. Le matin, à 8h30, les policiers m'ont téléphoné. Il m'a dit, madame, c'est ta, cette personne, vous les connaissez? Oui, est-ce que vous pourrez venir les chercher? Parce que ça serait regrettable que monsieur reste encore une nuit. Je ne peux pas accepter cette situation.
Parce qu'il avait sur lui une carte de vous, c'est ça?
Oui. Ouais. Et puis, évidemment, les policiers, je suis allée personnellement les chercher. Et les policiers, ils ont été impeccable, les intervenants et bien compréhensible, et ce qui a fait, les policiers l'ont écouté énormément. Il m'a dit, vous allez voir comme il est en crise, vraiment, il a besoin de sortir, il ne peut plus tolérer ça. Ouais. C'est-à-dire, les deux, il en avait une policière féminine aussi, c'était extraordinaire. Les deux, ils l'ont accompagné tout le temps. Oui. Et quand ils ont pris les empreintes digitales aussi, ils l'ont fait avec respect et puis gentillesse. Et le monsieur a tout accepté. Il a passé par toutes les démarches qu'il fallait faire gentiment. Et vraiment, il a expliqué les conditions de libération, etc., etc. J'étais présent. Il a dit, j'espère que vous n'allez plus retourner ici. Oui. Alors,
vous voyez, il y a des cas que vous présentez où les policiers agissent.
Je me demande, est-ce que ces policiers, ils ont eu une formation spéciale ou c'était les qualités personnelles?
Exactement.
Et c'était des jeunes dans la trentaine. Et je les félicite, je ne me souviens pas maintenant ce nom parce que mentionné.
Ça fait chaud au cœur, mais c'est pas.
Oui. Parce que vraiment, je me suis sentie, j'ai dit, ça, c'est un pays, je me suis dit.
Mais ce n'est pas toujours le même cas. Je reviendrai maintenant, peut-être avant de revenir avec vous, continuer à cheminer dans la même direction, le même sens. J'aimerais bien poser la question à Mme Suzanne Charlon, parce que puisque M. Roland Casas n'est pas là aujourd'hui, je voulais juste poser une question, si vous me permettez, Mme Charlon. Est-ce que pensez-vous que la journée, le 15 mars, contre la brutalité policière, devra exister, selon vous?
Je pense que autant qu'il y aura de brutalité, aussi longtemps qu'il y a de la brutalité policière, il devrait y avoir cette journée-là. Oui. Et on sait, parce que vous nous racontez toutes les semaines, qu'il y en a beaucoup, malheureusement.
Chaque semaine, quasiment.
Moi-même, j'ai fait des émissions il y a longtemps, quand j'étais bénévole ici, je faisais des émissions et on a parlé de ces itinérants qui sont battus, qui sont morts. Il y en a plusieurs. Oui. Et ça existe encore. Oui. Et moi-même, j'ai eu une mésaventure avec la police. Oui. Puis là, je dois dire aux gens moi, je suis une petite madame dans la cinquantaine, là. Rien d'une anarchiste. J'étais chez moi, tranquillement. Il est 2h du matin, je suis en train d'écrire. J'habite une maison que je partage. Il y a deux colocataires, deux autres, et elles sont couchées, elles dorment. Et là, je me souviens plus c'était en quelle année, c'était durant la grève des policiers, alors qu'ils portaient les jeans. Il y a un grand gars en jeans, chemise carottée, qui frappe à coups de poing dans ma porte.
À 2h du matin.
À 2h du matin. Pourquoi? C'est la police, quelqu'un m'a appelé. Je suis la seule debout. Puis moi, j'ai pas appelé la police.
Voilà.
Puis j'ai refusé catégoriquement d'ouvrir la porte, puis donner des coups de pied, des coups de poing. Je vais défoncer la porte.
Et sa partenaire,
sa partenaire est arrivée avec la voiture, puis elle a dit, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a appelé. Là, j'ai ouvert la porte.
Voilà.
Mais ce grand gars qui n'a pas montré
son badge, son matricule, son nom.
Rien, comme ça, qui me dit qu'il va défoncer la porte.
Alors qu'il y a juste une personne qui vient après lui, qui dit oui, nous sommes voilà, on a reçu un appel gentiment,
avec la voiture,
vous ouvrez la porte.
Bah, pas de problème.
Oui. Et ça vous a marqué? Depuis combien d'années vous avez fait ça?
Écoutez, ça c'est arrivé dans les années peut-être, mon Dieu, c'est en 80...
Une vingtaine d'années, j'imagine.
15, 96. Mais moi, ça faisait pas longtemps que j'habitais à Montréal, parce qu'avant, j'habitais à Ottawa. Et puis, je dois dire qu'à Ottawa, en Ontario, généralement, j'imagine, il y a une mentalité complètement différente. C'est comme je disais tantôt, hors d'onde, il y a une journée à Ottawa, c'est fait un câlin à un policier. Hug a policeman. Fait que les gens... On les aime en Ontario, nos policiers, mais ils ont des bonnes manières.
Un comportement.
Ils ont un meilleur comportement.
Parce que vous êtes en train de souligner, avec ce qu'elle souligne justement Mme Aladio, c'est ça ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la frontière entre ces deux policiers, le comportement de deux policiers, quelqu'un qui peut faire toute la différence, hein, et surtout vis-à-vis à la... Donc, si j'ai bien compris, pour vous, aussi comme citoyen, ce n'est pas juste parce que vous avez vécu une certaine aventure malheureusement, qui vous a marqué. Pour vous, cette journée, le 15 mars, de la brutalité contre la brutalité policière, devrait exister. Et j'ai dit, justement, ce sera un signe de dénonciation et qu'elle devra continuer. Sinon, dans le cas contraire, on donne feu vert, justement, aux policiers de sa
victoire. Il faut surveiller. Quand on donne des pouvoirs à des gens et des revolvers, il faut les surveiller.
Merci beaucoup, madame. Je reviens avec vous, madame Aladio. Présentement, vous nous avez cité deux cas d'intervention policière.
Trois cas, mais je parle de deux qui s'est très bien passé, s'est bien produit.
Mais j'aimerais bien, vous avez aussi, si vous pouvez nous raconter aujourd'hui, où ça a mal tourné. Où il y a des policiers, une intervention qui était excessive, qui était brutale, qui était injustifiée, qui était inutile, si vous voulez.
La situation de monsieur au métro était particulièrement brutale.
Votre client, est-ce qu'il a eu des altercations avec des sorties policières? Ça, je peux savoir. Est-ce qu'il y avait des interventions où les policiers l'ont tabassé, où ils l'ont...
Que je sache, c'est trois moments pour l'instant. Évidemment, c'est au fur et à mesure que j'avance dans les traitements, et la personne commence à me confier des choses plus. Mais c'est évident que c'est un client qui se met dans des situations délicates.
Il ne se met pas dans une situation, il est victime de lui-même.
On ne peut pas non plus demander aux policiers d'être un travailleur social, mais avoir des techniques et savoir déceler. Peut-être que ça devait, je ne sais pas les programmes, mais je suppose qu'il doit y avoir des indices qui les donnent aux policiers dans la formation pour dire comment détecter une telle et telle situation. Alors, vous comprenez, c'est à ça que je m'adresse. C'est très important de pouvoir former un peu plus les gens. Je ne sais pas la différence entre la police du métro et la police... des rues, évidemment. C'est tout à fait. Et je peux vous dire que ça fait 46 ans que je demeure à Montréal. Et je comprends qu'il a une grande évolution. Parce qu'avant, il n'avait pas la formation comme aujourd'hui. Mais on se rend compte qu'ils ont évolué. Mais on demande toujours un peu plus.
C'est bizarre parce que nous, on travaille. Ce qu'on fait comme travail, justement, c'est de recevoir les appels des victimes.
Et vous trouvez beaucoup.
Et on trouve que ça, c'est quasiment chaque semaine ici on fasse une émission et les téléphones ils ne cessent pas de sonner.
Mais peut-être
il y a une inquiétude.
Peut-être il a lieu à suggérer un peu plus de formation.
Maintenant, je veux savoir quelles sont les démarches pour vous. Vous êtes une personne spécialisée dans le domaine, dans le terrain, une personne de terrain. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous participé pour proposer au gouvernement quelque chose pour faire justement le changement? Surtout pour ces gens-là qui sont vulnérables, pour des gens qui... Comme le cas de votre client. Pas personnellement,
mais moi, je participe beaucoup. Par exemple, l'association de la santé mentale, ils organisent... une fois par mois, on a des conférences. Et puis, ça touche toujours à la condition des différents groupes sociaux qui ont demeuré ici. Ils sont très alertes sur tous les problèmes. Évidemment, il y en a plein de professionnels qui pourront donner des directives. Et puis, l'expertise est florissante à Montréal. C'est-à-dire que si le gouvernement voudrait mettre en place des dispositions tout à fait spéciales, il n'y a qu'à demander à tous ces organismes. Et les ACSS, par exemple, ils sont vraiment des intervenants du champ et puis qui viennent informer.
Vous pensez qu'il y a une possibilité d'améliorer ce cas-là?
Oui, beaucoup de choses. Mais ce qui a trait à la problématique des personnes avec des troubles mentaux, et c'est très particulier parce que dans toutes les directives du gouvernement, nous avons trouvé la décentralisation des patients. Ils sortaient les patients de l'hôpital
c'est un autre problème aussi,
les intégrer dans des foyers. C'est évident, c'est très difficile pour les professionnels de suivre les personnes parce qu'ils s'en vont vivre chez eux, ils ne prennent pas des fois les médicaments et ils se détériorent et dans une semaine, c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a des ponts à faire entre tout ça. Il a des ressources, évidemment, pour tout ça, mais il circule dans la rue. Et comme il circule, c'est justement la police qui doit être sensible
à les détecter. Vous nous avez dit ce matin comme quoi votre client, depuis 4 ans qu'il vit ici, il n'a pas vu un médecin, il n'y avait pas un suivi.
Donc, il arrive que les réfugiés sont des services spécialisés dans un secteur qui devrait y aller. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est détecter que ce monsieur, il avait des problèmes.
Moi, tout ce que je veux dire, Madame Aladio Graciella, psychologue qui exerce depuis 20 ans ici, moi, je souhaite vraiment vous rencontrer une seconde fois, justement pour parler, si possible, pour parler justement de ce cas-là, parce que c'est un cas qui est inquiétant et que beaucoup de monde y attend des réponses. Il y a beaucoup de questions et malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses. Je profite aussi, juste parce que la fin de l'émission s'approche, et j'ai mon collègue Roland Cazès qui vient de rentrer, toujours en retard. C'est la première fois qu'il a fait en retard.
Et vous avez un transport magnifique.
Roland, vous avez participé à la manifestation contre la brutalité policière. Hier, vous étiez présent. Moi, j'aimerais bien vous poser deux questions. Qu'est-ce que vous avez remarqué cette année-là de particulier pour cette manifestation-là? Et j'aurais une deuxième question, d'ailleurs, que j'ai posée à tout le monde. Pensez-vous que cette manifestation, 15 mars, contre la brutalité policière, devra exister, oui ou non, et pourquoi?
Non seulement elle devrait exister, c'est qu'on doit crier haut et fort que tous les policiers intimident les journalistes, leur disent vous allez dégager avant de pouvoir attaquer justement les gens qui manifestent. C'est vicieux, c'est salaud, c'est dégueulasse. Ensuite de ça, les policiers ne respectent pas la loi, l'environnement et autres. Ils ont des chevaux. Leurs chevaux n'ont même pas de poche pour avoir le crottin de cheval. Ils l'exigent aux calèches. Et eux, c'est répandu partout, ça pue le crottin. Il faut que vous regardiez où vous mettez les pieds. J'estime qu'ils ne respectent pas la loi eux-mêmes. Comment pouvez-vous montrer l'exemple aux gens de respecter la loi?
Mais qu'est-ce que vous avez vu en particulier de cette année-là? Je sais qu'il y a 200, je ne sais pas combien d'arrestations il y avait, massives.
Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes manifestent correctement. Mais lorsque la police agit d'une façon vicieuse, c'est les stratégies militaires. On emmène tout le peuple devant une grande côte à 50-60 degrés, et là, on commence à les attaquer.
C'est ça. Et on les partage aussi.
Comment vous avez déjà fait, vous rappelez?
On a déjà fait, là.
Oui. Et ils font ça, c'est une vieille tactique militaire, vous savez, là, des anciens militaires retardés un peu, là.
Mais déclarer, Roland, déclarer la manifestation déjà illégale au départ, comme ils viennent de venir me dire, Henri.
Illégale, c'est eux qui prétendent que c'est illégal. Mais il y a le droit de citoyen. On n'est pas dans une dictature, on est dans une démocratie ici. Il faudrait respecter cette démocratie. Le peuple a le droit d'élever la voix puis de dire ça marche plus, ça va plus. Les itinérants, les malades mentaux sont dans les rues. La drogue est envoyée soi-disant que ça les soigne. Ça les rend encore plus fous. Écoutez, on favorise justement la détérioration de citoyens.
Oui, mais ça j'aimerais bien, parce que c'est particulier, hein, comme je l'avais cité déjà, mon ami, notre collègue Barnabé, M. Barnabé, à 75 ans, 75 ans, il participe encore. Vous, vous n'avez pas 20 ans non plus, là.
Ah ben non, moi c'est passé, j'ai 35 ans à vivre.
mais ce que moi, mais quand même, dépasser la 70 ans, et vous participez aussi, Roland.
Ah oui, il faut participer.
Et vous insistez à participer.
Ben oui.
C'était à refaire, vous allez revenir sur le champ.
Si, il faut le refaire.
Même si
le refaire.
Je cite aussi que la dernière fois, vous étiez blessé par les policiers.
Il y a trois ans, ils m'ont attaqué. Trois policiers se sont jetés sur moi. Ça,
et ça, ça vous a pas découragé.
Jamais eu de perte.
Excusez-moi, mais ça, ça vous a pas découragé. Ça vous a pas découragé pour ne pas
ça
participer.
Ça me décourage pas, au contraire.
Et vous en voyez aujourd'hui.
Je ne respecte plus ce monde-là. Alors qu'avant, ils étaient sains pour moi. Aujourd'hui, je ne les respecte plus.
Et vous envoyez un message aujourd'hui. Est-ce que c'est un message aujourd'hui pour les jeunes pour dire participer, continuer, ne jamais laisser.
Maintenant, il y a autre chose que je veux citer. S'il y a des casseurs, des drogués, des faqués, des voleurs, c'est parce que la police ne fait pas sa job tous les jours.
Merci Roland. J'aimerais bien juste passer à Madame Dernier. Avez-vous quelque chose à dire aujourd'hui aux citoyens?
Aux citoyens d'être aussi sensibles
très vite, rapidement,
à cette situation. Parce que si vous voyez mon client dans les métros, soyez sensibles.
Mais ce n'est pas juste votre client. Si vous, si vous rencontrez quelqu'un qui souffre visiblement, qui souffre de troubles mentaux,
il ne faut
pas avoir peur et être
Et c'est la peur, justement, qui mène à l'agression. C'est la peur d'un et la peur de l'autre. Parce que mon client a peur. D'être agressé. Alors, c'est ça. C'est très sensible. Et puis penser que c'est une maladie.
Voilà, dommage. Malheureusement, chers auditrices, chers auditeurs, c'est tout le temps qui nous reste de notre émission. J'aimerais remercier mes collègues Roland Cazès et Henri Barnabé pour leur participation. Je remercie évidemment Madame Aladio, psychologue qui exerce ici à Montréal depuis 20 ans pour son d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation, d'avoir témoigné de ses inquiétudes envers cette population vulnérable, les personnes souffrant de troubles mentaux. Je remercie Merci aussi Suzanne Chartrand, Suzanne Charland d'avoir participé dans cette émission-là. Elle nous a toujours donné un coup de main. Merci à Jérôme Higo pour la technique du son aussi. À Radio Centre-Ville 102.3 FM, on dit merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis merci, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et je vous donnerai rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Au revoir.
Attention! Repos!
Comment ça va, lieutenant?
Ah, le moral est bien bon.
T'as pourtant l'air en forme?
Oh!
Tu seras encore capable de passer ton test d'admission dans la police de Montréal?
Oui, chef!
Pourrais-tu me réciter toutes les lettres de l'alphabet, mais pas nécessairement dans l'ordre?
Oui, chef!
Ben alors, la vie est belle!
Ah non, c'est pas ça, chef. C'est que nous autres, on est inutiles. De ce temps-ci, il y a quasiment plus de viol d'indécence.
Faites de l'obstruction systématique! De l'obstétrique systématrice! Vous êtes allé, là! Dans la rage des événements, quand vous surveillez une maison, les armes à la main. Si vous voyez quelque chose qui court, tirez. Si vous voyez quelque chose qui tire, courez.
Police! We have a search warrant! Police! Police search warrant!
The wall,
talking all that jive,
it got me backed up against the wall,
just trying to stay alive,
it got me backed up against the wall,
can't spin back it
all, it got me backed up against the wall,
oh Lord.
With my boombox blasting out of nowhere, cops pull out two blocks flashing. Trace my face with biometrics, afraid I could grenade the parade like Boy Chevins. Come on, Virgin Lennon slash John Lennon slash soft melon exhaust, augmented authentic as a lost order fact. That's why my name in capital letters is all they have. Treat us like animals, stole all human citizenship. Serantanamo blueprints and fingerprints. Cause when you're born, they sell you phenomenally in my prisons.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique,
Information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide? C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, honk francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.